Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Félix Delacour. Où porter son regard cette semaine ? Sur le crabe boxeur, aussi appelé crabe pom-pom girl, qui tient des anémones urticantes au bout de ses pinces pour capturer ses proies, anémones qu'il agite également pour intimider ses ennemis. On le trouve dans les océans Indien et Pacifique, enfin si l'on est muni d'une bonne loupe, car il ne mesure pas plus de 2 cm et son habitat est menacé de destruction. Inutile de soulever la banalité tragique de cette dernière phrase, dit la journaliste usant de la figure de style appelée prétérition. J'intègre la première personne du singulier pour vous présenter notre invité qui est poète, essayiste, romancier, réalisateur et militant. L'un de ses films, Demain, co-réalisé avec Mélanie Laurent, a reçu le César du meilleur documentaire et est disponible en VOD. Et son dernier film, Animal, est toujours visible en salle. Notre homme vient de faire paraître chez Actes Sud son second recueil de poésie, À l'orée du danger. Le reste, et il y en a beaucoup, sera abordé tout au long de l'émission.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Et Animal est sorti en VOD hier.
Une petite précision.
Mais on peut le voir donc en salle et en VOD.
Mais non, on peut plus trop le voir en salle.
Enfin, ah bon, mais j'ai vu des séances.
Oui, c'est des séances spéciales, des débats et tout ça que les gens organisent. Oui. Et ils peuvent toujours le faire. Ah. Vous pouvez toujours organiser des débats.
D'accord. Mais pas dans cette émission, parce que nous sommes le premier jour du premier tour des élections.
Pas de débat.
On va y revenir, Cyril Dion. On va y revenir pour justement ne jamais y revenir. Êtes-vous content d'avoir été mis au monde?
Ouais, je suis trop content d'avoir été mis au monde.
Ah non, alors là, vous aviez quand même un regard un peu désabusé, tourné vers une diagonale existentielle qui ne voulait pas vraiment dire que c'était vrai.
Non, c'est complètement vrai. C'est-à-dire, je pense qu'être en vie est vraiment une des choses les plus extraordinaires qui soit. D'ailleurs, la probabilité que ça arrive est quand même faible si on regarde un peu la biologie. Et à la fois, c'est pas facile tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on a de la peine, et puis il y a des jours où on est aussi tiraillé, et puis il y a des jours où on comprend pas ce qu'on fait là. Mais... quand même, cette expérience est extraordinaire.
Alors vous qui participez tant au monde, justement, on va aller le visiter, ce monde, aller voir l'extérieur. Mais comment se passe la cohabitation avec vous-même ?
À la fois, j'ai une... Vous savez ce truc où il y a des gens qui ont une sorte d'estime d'eux-mêmes beaucoup trop importante et beaucoup trop basse en même temps. C'est-à-dire la capacité à la fois de dire si... je mourrais, je pense que l'humanité perdrait quelque chose, et je suis la plus sinistre des merdes que le monde n'ait jamais portée. Bah, ça ressemble un peu à ça, la cohabitation avec moi, et au fur et à mesure des années, j'ai l'impression que j'arrive quand même à ce que cette échelle devienne plus plate, et à accepter d'être juste la personne que je suis. J'ai une bonne psychiatre aussi, donc ça peut aider.
L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Pour Martin, c'est le
titre de 1958, L'aventure de Jacques Brel, pour introduire ce qui vous donne envie de vous lever, Cyril Dion. L'idée de vivre une nouvelle journée d'aventure, ça marche la plupart du temps, mais pas tous les matins, dites-vous. Est-ce que vous avez un quotidien surprenant ?
Oh, bah oui, il y a des jours qui sont plus surprenants que d'autres. Par exemple, un jour j'ai été voir le pape. C'était un jour assez surprenant parce que c'est pas un jour qui ressemble vraiment à celui d'avant ni à celui d'après en règle générale. Et c'est vrai que j'ai une chance extraordinaire, c'est que on me donne la possibilité de faire plein de choses différentes. De faire des films, de faire des livres de poésie, de faire des spectacles, là je vais faire un disque de poésie et de rock, d'écrire des romans, d'écrire des essais, d'aller rencontrer des gens exceptionnels que j'aurais jamais pensé que je pourrais rencontrer. Et ça, ça donne envie de se lever le matin quand même. On se dit, waouh.
Alors on va aborder plein de choses avec vous, Cyril Dion, mais je suis obligée de faire un rappel. Nous sommes donc le jour du premier tour des présidentielles. Je vous demande de m'aider en résumé, on n'a pas le droit de parler de politique.
J'ai failli dire le nom de quelqu'un.
Non.
Et je me suis mordu la lèvre.
René Coty. Alors, dans un instant, Il sera entre autres question de cause perdue, mais très rapidement et sans politique, de salaire, de poésie, de Brassens, de John Lennon, de Kerouac, de théâtre, de Rilke, de Neruda, du Parrain et de sommeil. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Sébastien Tellier, porté par le vent dans l'embellie sur France Inter. Nous sommes avec Cyril Dion, qui souhaiterait changer, je le cite, beaucoup trop de choses dans la société, le saccage du vivant, le climat, les inégalités, mais plus personnellement, le chantage au salaire, l'obligation de travailler pour survivre. Alors, on va parler de l'acte de travail, donc du labeur, évidemment pas de politique. Et ça m'a fait penser à Paul Lafargue, Le droit à la paresse en 1880, qui parle de l'étrange folie qui torture la triste humanité, la passion moribonde du travail poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture.
En fait, moi, mon problème, c'est pas de travailler, parce que je travaille énormément. Je suis même un peu... Je gère mon angoisse par l'hyperactivité, donc du coup, je fais plein de trucs. Ce qui me pose problème, c'est... la coercition et le sentiment d'enfermement. C'est-à-dire que moi, je détestais l'école quand j'étais petit. J'avais vraiment l'impression que j'étais un endroit où on m'avait pas du tout demandé mon avis et je comprenais pas toujours à quoi ça allait me servir, ces théorèmes de Pythagore. Et à un moment, en regardant les adultes, je me suis dit, mais attends, en fait, quand je vais finir d'être à l'école, après, l'idée, c'est que je vais aller au travail. Mais c'est le même truc, en fait. C'est la même histoire. Parce que je voyais tous ces gens qui vont au travail, qui n'ont pas du tout envie d'y aller, qui ont des mines défaites dans le métro avec des cernes et l'air d'avoir le foie malade. Et je me disais, mais c'est une espèce d'arnaque, ce truc. Ça va être comme ça toute la vie, en fait, avec des toutes petites plages de vacances, les week-ends, donc les vacances, éventuellement la retraite. Et j'entendais des gens, je me souviens avoir eu cette conversation avec quelqu'un qui me disait, je travaille dans une banque, je travaille à la Barclays et tout. Je dis, ah bon, t'as toujours voulu travailler dans une banque? Non, moi, je voulais être pianiste. Je dis, ah bon, mais alors, pourquoi travailler dans une banque? Ah bah, en fait, là, je gagne le maximum d'argent possible. Et puis, à 50 ans, je deviens pianiste. Et je dis, mais si tu as une crise cardiaque à 48 ans, que va-t-il se passer? Et cette espèce d'injonction de dire, il faut devenir un agent productif de l'économie mondiale et faire de la croissance et machin, etc. Très rapidement, je me suis dit que c'était pas possible, et donc qu'il fallait trouver des chemins de traverse pour faire ce qui nous passionne, faire ce qui nous donne envie de nous lever le matin, faire ce qui nous fait nous sentir vivants profondément. Et alors qu'on me disait que c'était pas possible, que fallait pas trop rêver non plus.
Mais imaginez qu'on veuille tous être pianistes. Après, si on était tous pianistes, déjà ce serait très bruyant et puis ça ferait une société où il manquerait quand même pas mal de gens très utiles.
En fait, je suis absolument persuadé que ça, y aurait jamais un monde où tout le monde serait pianiste.
Oui, il y a un équilibre. Vous pensez qu'on s'auto-régulerait ?
Non, en fait, je crois que si on permet aux enfants d'avoir accès à énormément d'expériences, de connaissances, par exemple, quand je suis allé filmer en Finlande pour le film Demain, ils font de la cuisine, ils font de la couture, ils travaillent le bois, en même temps qu'ils font de l'astronomie, en même temps qu'ils font des maths, etc. Et surtout, on leur laisse l'espace. Parce qu'il y a des pédagogies qui sont formidables, de découvrir qu'en fait, ce qu'ils adorent, ah bah oui, moi ce que j'adore en fait, c'est travailler le bois. Et en plus, c'est pas dévalorisé. Donc je pense que ça se passe dans l'éducation, et ensuite je pense aussi qu'il y aurait une énorme vertu. Par exemple, dans un monde comme ça, on me dit toujours, personne va vouloir être éboueur. Je dis, bah ok, et donc ça voudrait dire que il faudrait se débrouiller pour faire quelque chose de nos déchets, en fait. Ouais. Ça veut dire qu'une société où on produit tout le temps des déchets, et où on laisse à des gens qui sont un peu les esclaves de cette société se débrouiller avec, peut-être que on en viendrait à se dire, bah, ça marche pas. Donc, bah, il faudrait qu'on soit dans une société où on produise pas de déchets. Pour pas avoir besoin d'avoir des esclaves qui vont s'en occuper. Ou alors, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on répartisse. C'est-à-dire que chacun d'entre nous fait des...
C'est pas politique du tout, là, ce que vous dites.
Pas du tout. Non.
Pas du tout.
Une heure ou deux, on fait certaines tâches qui sont pas toujours drôles, mais qui sont pour la collectivité, pour l'intérêt général. Et puis, on a plein d'autres temps dans la journée pour faire plein d'autres choses géniales.
Cyril Dion, vous êtes très impliqué dans tout ce que vous faites et vous qualifiez ça de cause perdue apparemment. Vous avez ce besoin de réparer et vous dites que pendant 5 ans, vous avez travaillé au dialogue entre Israéliens et Palestiniens, mais aussi entre Juifs et Musulmans. C'était avant l'écologie. Et puis, en préparant l'émission, j'ai appris que vous aviez aussi une formation en réflexologie plantaire. J'ai trouvé ça très exotique.
Je vous remercie.
Et vous avez aussi été comédien.
Oui.
Alors, revenons à la fondation Hommes de Parole. Vous avez été coordinateur de projet pour eux, c'est ça ?
Mmh. Et directeur éditorial, oui.
C'est écrit par l'éditeur et humanitaire Alain Michel, qui a rassemblé des imams et des rabbins du monde entier. Vous avez organisé le premier congrès mondial des imams et des rabbins pour la paix.
Mmh. C'est pas banal, hein ?
Non.
En fait, le but, c'était de réunir les 300 plus importants leaders religieux, juifs et musulmans du monde entier, de les coller dans un hôtel pendant 4 jours et de voir ce qui se passe. Donc le premier jour, ils sont chacun à des tables différentes au repas.
Après, ils mangent du houmous ensemble.
Ouais, exactement. Après, ils se mettent carrément à faire les prières en tapant dans les mains, en dansant, en chantant. Et un jour, comme ça, je me suis retrouvé avec le vice-ministre de la justice israélien, donc qui est aussi un rabbin ultra-orthodoxe, qui est un des fondateurs du Chass, qui est un parti d'extrême droite. Et je le vois...
C'est pas politique, les partis d'extrême droite.
Mais on peut plus rien dire. Et je le vois en train de parler avec des imams marocains. Alors que théoriquement, quand même, ils s'entendent pas trop, ces juifs, mais musulmans, là. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites ensemble? Il dit, mais moi, je viens du Maroc. On connaît les mêmes prières, on mange les mêmes trucs, on connaît les mêmes chants. Et donc, ils étaient juste en train de chanter et de danser ensemble. Parce que, quand on les conduit sur certaines voies, ils peuvent mesurer que il y a beaucoup plus de choses qui les rapprochent que de choses qui les séparent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
Bien sûr.
Et c'était très, très, très impressionnant parce qu'on leur a permis de travailler avec un truc qui s'appelle le forum ouvert, en gros, on les laisse eux-mêmes décider de quoi ils vont parler, et ils ont choisi de parler de tous les sujets dont nous, on avait peur de les faire parler. Les sujets hyper polémiques, les manuels scolaires, les frontières de 67, etc. Et c'était magique. Par exemple, il y avait un rabbin qui s'appelle Ed Miller, qui était un rabbin américain, qui un jour vient nous voir et se met à pleurer toutes les larmes de son corps en nous disant « Je viens de passer toute la nuit avec un Palestinien qui s'appelle Salha. » On a essayé de se convaincre pendant des heures. Des heures et des heures et des heures. Je n'ai jamais été autant en désaccord avec quelqu'un de ma vie. Jusqu'à 6 heures du matin, j'ai essayé de lui faire comprendre que c'est moi qui avais raison sur le conflit, etc. Et à 6 heures du matin, ils se sont effondrés sur leur chaise. Et c'était un hôtel où il y avait une grande verrière comme ça. Donc on voyait le ciel. Et affalés sur leur chaise, épuisés, ils ont regardé le soleil se lever. Et ils se sont mis à pleurer, tous les deux. Et ils se sont regardés. Et ils se sont pris dans les bras l'un de l'autre. Et ils ne se sont plus quittés de tout le congrès. Et je lui dis, mais du coup, vous étiez mis d'accord? Il me dit, ah non, pas du tout. Je dis, bah, alors pourquoi vous êtes devenus copains comme ça? Il me dit, bah, je sais pas. En fait, c'est comme si, quand on était au bout des arguments intellectuels, en voyant la beauté de ce lever de soleil et avec la fatigue, on s'était reconnus comme deux humains, quoi, deux êtres. Et du coup, c'était plus fort que tout, ça. Et la femme d'Ed Miller, pendant tout le congrès, après, quand elle le cherchait, bah, elle cherchait ça là, parce qu'elle savait qu'ils étaient tout le temps fourrés ensemble. C'est pas mal, quand même.
Ouais. Alors, ça va vous faire des vacances, Cyril Dion, mais on va pas vraiment aborder l'écologie. Alors, l'écologie, évidemment, je précise, c'est cette l'homme science. Dans son habitat. Donc ça, c'est universel, évidemment. Vous avez cofondé le mouvement Colibri, vous avez cofondé la collection Domaine du Possible aux éditions Actes Sud. Alors, je peux pas tout citer, tous vos gestes sont engagés.
Pas tous, quand même.
D'accord, pas tous.
De temps en temps, je fume des clopes. C'est pas du tout engagé.
Non, ça, c'est vrai que c'est pas engagé, donc je ne vous félicite pas.
C'est très moche. Rouler avec un filtre bio.
Voilà, rouler en plus, non, alors là, vraiment, aucune tolérance. C'est fort. This is karma's gonna get you. Gonna knock you right on the head. You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. Dans les artistes qui vous ont aidé à faire face au monde, Cyril Dion, on trouve John Lennon, dont on entend le morceau Instant Karma paru sur son premier album solo, John Lennon Plastic Ono Band, en 1970, en collaboration avec George Harrison, donc pas vraiment en solo. C'est une inspiration pour vous, John Lennon ?
Ah bah, j'aurais juste voulu être John Lennon, en fait, c'est plutôt ça. À la fois, pour moi, les Beatles, je pense que c'est le summum de ce qu'on est capable de faire en musique pop. Pour moi, c'est pas que ce sont des génies eux-mêmes, mais c'est que l'alchimie entre eux est juste miraculeuse. C'est-à-dire que c'est fou d'avoir autant à la fois de qualité mélodique, d'incarnation et d'être aussi touchant, d'avoir été capable d'explorer autant de facettes de leur musique, à la fois vers la musique classique, vers le pop, la pop, le trip-hop, la musique indienne, enfin bon, bref. Et en même temps, à l'intérieur de ça, John Lennon, quand il a mené sa carrière solo, est une des personnes qui me touche le plus au monde, qui me bouleverse, parce que c'est un ado attardé, en même temps que c'est un homme extraordinaire dans sa capacité d'engagement, un artiste, et à la fois c'est un sale con des fois, et qui est ridicule, et il me touche tellement, en fait, dans toutes ces contradictions, que je... ces chansons, c'est comme si t'es de ma famille, quoi. Un peu.
Une idée me vient comme ça qui me tombe du ciel. Enfin, peut-être pas le si haut, mais enfin qui me tombe de quelque part. Un truc m'arrive comme les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que à la suite d'une réflexion sur laquelle je n'ai aucun contrôle. Une partie se passe dans l'inconscient quand même. Des choses se font un petit peu à votre insu. Enfin, c'est des choses cheminent toutes seules en vous, puis arrivent à prendre à la suite d'une conversation, d'une lecture, d'une rencontre. Je ne vise aucun but quand j'écris une chanson. Je n'ai pas l'intention de dire quelque chose. J'ai l'intention de jouer avec des mots et avec des notes.
Georges Brassens au micro de Philippe Nemo en 1979. Autre figure dans votre panthéon personnel, Cyril Dion. Il a eu le Grand Prix de poésie de l'Académie française en 67. Et vous qui écrivez de la poésie, j'imagine que ce n'est pas indifférent à votre goût pour lui.
Non, c'est pas indifférent. Après lui, il considérait qu'il n'était pas assez bon pour être appelé poète. Parce qu'il aimait tellement les poètes et la poésie que... Puis il a toujours un côté, on l'entend quand il parle, là. Il a une espèce de recul, il fait un peu son blasé. Oui, bon, c'est vrai que quand même... Alors qu'il était tellement investi dans ce qu'il faisait, c'est trop drôle qu'il mette toujours cette distance, mais... Non, ce que j'adore chez Brassens, c'est pareil. Pour moi, Brassens, c'est un peu comme la famille. C'est-à-dire que quand je suis triste à mourir, si j'écoute Brassens, j'ai l'impression d'être avec mon père, mon grand-père, mon cousin, mon... Ce que j'adore, c'est que c'est notre culture populaire. C'est-à-dire que moi, je connais quasiment toutes les chansons par cœur, que j'ai plein d'amis avec qui on peut les chanter, et on peut passer des soirées entières à se dire « Ah tiens, celle-là », et puis hop, on se met à la chanter. Comme ça existe dans d'autres pays que j'en vis énormément, comme en Irlande, ou comme où ils ont des chansons traditionnelles qui sont du patrimoine commun et qui sont justement une des grandes beautés d'être ensemble. Moi, je trouve que faire de la musique et chanter ensemble, c'est un des trucs les plus exceptionnels qu'on peut faire. Et pour ça, on a besoin d'avoir une culture commune. Et Brassens, c'est ça pour nous. C'est quelqu'un qui nous raconte des histoires, c'est en même temps quelqu'un qui nous touche, c'est en même temps quelqu'un qui nous parle de nous et de lui. Et c'est suffisamment universel pour que tout le monde s'y retrouve, que tout le monde apprenne par cœur, chante. C'est en même temps classique et en même temps très impertinent. Voilà.
Dans votre panthéon existentiel, on trouve la poésie. en écrire, en lire. Votre premier recueil, Cyril Dion, était Assis sur le fil. Le second est paru il y a peu, à l'orée du danger, chez Actes Sud. Vous en écrivez depuis l'âge de 17 ans. Comment ça vous a pris, vous vous souvenez?
Je pense que c'est arrivé avec le, avec l'angoisse. Avec le fait que j'arrivais pas à trouver de remède à l'angoisse. Pour pas dire de remède à la mélancolie.
C'est ma prochaine émission, remède à l'angoisse.
Et que, un jour, parce que j'écrivais déjà un peu, j'ai commencé à écrire à 13 ans des romans policiers qui étaient un peu des pastiches d'Agatha Christie ou ou d'Arsène Lupin. Avec des phrases absolument sublimes. Je pense que celle-là pourrait vous plaire. Un jour, j'ai écrit « Elle gisait pendue
». Ah oui.
Sans vraiment comprendre qu'il y avait quelque chose qui était une sorte d'impossibilité physique. C'était un roman qui s'appelait « Fichu sait ». C'était un héros avec une moustache rousse et des costumes en tweed. Enfin,
j'étais comme vraiment... vous.
Oui, absolument. Et donc j'écrivais déjà un peu, mais un jour j'ai découvert que l'écriture pouvait aussi être un espace d'expression des choses les plus profondes et les plus parfois douloureuses, parfois sous-jacentes, parfois indicibles, ou en tout cas qui me semblaient être indicibles, et qu'il y avait un espace dans lequel je pouvais à la fois me libérer de ça et en faire quelque chose d'autre, le transformer, faire un peu l'alchimiste avec ça.
Mais d'ailleurs, on sent dans À l'orée du danger, Cyril Dion, que l'angoisse a été un des matériaux premiers. Parce que vous, évidemment, vous dégagez de la beauté, d'une tristesse absolue. Je cite quelques extraits que j'ai soulignés. Plus d'amour, plus de joie à contempler les tours qui s'effritent, les pans du monde effondrés, les corps redevenus sable, crasse, gravier. Lutter contre la décadence est inutile, la décadence ronge mes os. Sans cesse rappeler les éléments du désastre, divertir l'angoisse dans le giron coloré d'une surface rétroéclairée. Et puis aussi ça qui m'a interpellée, le chemin court, je ne le connais pas. Ça, c'est vrai. Mais vous découragez jamais et pourtant vous avez l'air de savoir ce que c'est que le découragement.
Ouais, mais je vois que je me suis construit... alors après, j'ai eu des explications avec ma très bonne psychiatre, mais que je me suis construit vraiment dans le combat et dans l'affrontement, dans le fait de devoir surmonter des épreuves. Et ça a une limite, ça, quand même. C'est-à-dire que ça a été un mécanisme de survie qui m'a vraiment permis de dépasser des situations très difficiles dans l'enfance et qui a aussi été un moteur incroyable pour accomplir des choses tout le temps, y compris pour des causes perdues, justement, puisque l'adversité est comme une sorte de stimulant pour moi. Mais là, j'arrive à un moment de ma vie où je vois que déposer les armes, accepter justement que tout n'est pas un combat et que on a le droit aussi d'être heureux, qu'on a le droit de profiter de l'existence et que il y a pas forcément de prix à payer en contrepartie de ça. C'est un peu ce que je vous disais avec le travail tout à l'heure. C'est un peu, ah oui, tu veux faire un travail qui te plaît et en plus être payé pour ça. Ah oui, ça va, oui. Il y a une part de nous qui est quand même pétrie de cette idée. Et j'essaie de m'en départir un peu.
Et vous écrivez dans un autre poème, justement, « Jamais sans doute je ne connus le bonheur ».
Ouais. Je pense que j'étais un peu énervé ce jour-là, mais depuis je l'ai rencontré, mais c'est fugace le bonheur. C'est vraiment le premier recueil s'appelait Assis sur le fil, parce que j'ai toujours ce sentiment-là d'essayer de trouver un point d'équilibre sur lequel je peux me tenir. Et à cet endroit-là, peut-être je peux être heureux, mais il y a toujours le risque de tomber d'un côté ou de l'autre, ce qui arrive le plus souvent. Et puis après, il faut voir comment on remonte sur le fil, quoi.
Il y a une lueur d'espoir à la fin du recueil, quand même, notamment avec l'expression attribuée aux Indiens Hopi, « Nous sommes ceux que nous attendions ». C'est joli, ça.
J'adore cette expression. C'était une façon de dire, on passe son temps à attendre que quelqu'un vienne nous sauver ou que quelqu'un nous apporte une solution, et en fait, peut-être que nous sommes ceux que nous attendions. Ouais.
Cyril Dion, il y a une œuvre phare pour vous, c'est Sur la route de Kerouac.
Oui, c'était une espèce de décharge d'électricité quand j'ai lu ça à 19 ans. Il m'a semblé que, par rapport à tout ce dont je vous ai parlé, de sentiments d'enfermement, l'école, le travail, etc., là, tout ça a été dynamité avec l'idée qu'on pouvait être libre, qu'on pouvait être fou, et que même il fallait être fou. Enfin, c'est cette fameuse citation de Kerouac qui dit « Je n'aime que les fous, ceux qui brûlent, ceux qui sont incapables de dire une banalité ». Et en lisant ça, je me suis dit mais c'est ça, en fait, c'est exactement ça que je ressens. Et cette espèce de traversée, d'épopée, où on voit bien que ce qui compte avant tout, c'est l'expérience, dans une forme presque de quête un peu mystique d'ailleurs, de porter l'expérience jusqu'à cette cette volonté de l'ériger en mode de vie et sans se faire enfermé par ce que Kerouac appelait le cauchemar climatisé de l'Amérique. Non, c'était peut-être Ginsberg. J'aime bien la Beat Generation aussi.
Autre jalon dans votre vie, le théâtre et Madame Brossel en cinquième.
Et oui, Madame Brossel. Si vous nous entendez, Madame Brossel, merci pour tout. Non, en fait, j'ai commencé à faire du théâtre en cinquième parce que j'étais dans la classe de Madame Brossel, qui était ma prof de français. Et ça a été un peu une révélation. Moi qui étais très timide, j'intériorisais tout, j'étais pétri d'angoisse. Et là aussi, un espace d'expression se s'ouvrait. Donc au début, je crois qu'elle m'a fait jouer les Fourberies de Scapin, un truc comme ça. Et puis j'ai continué, donc jusqu'à la terminale. Et après la terminale, j'ai décidé de faire une école d'art dramatique. En me disant, a priori ça j'aime bien. Bon, comme j'avais pas envie de continuer à faire des études... Et là encore, je suis pas resté comédien parce que je pense que j'étais pas assez doué pour ça et que je préfère plutôt être de l'autre côté de la caméra. Mais ça a été une expérience pour me connaître qui était extraordinaire, pour apprendre aussi ce que c'était qu'être un artiste, qu'il fallait arriver à ce que les choses nous échappent et qu'on cesse de vouloir les contrôler, et que c'était que à ce prix-là qu'une œuvre ou une performance artistique pouvait avoir une certaine vérité et donc une certaine portée. Et bon, voilà, ça s'est pas traduit dans les faits, parce qu'après j'ai plutôt fait genre le complice du brocanteur dans Une femme d'honneur ou le maître nageur violeur de la piscine dans un téléfilm de policier d'M6. Des vrais rôles à Oscar, quoi. Et donc, cette carrière s'est arrêtée quand même assez vite.
Le morceau Le Manège de November Ultra sur France Inter. Nous sommes toujours en compagnie de Cyril Dion.
L'embellie. Eva Bester.
Fuyez donc les motifs communs pour ceux que vous offre votre propre quotidien. Décrivez vos tristesses et vos désirs, les pensées passagères, la foi en une beauté, quelle qu'elle puisse être. Décrivez tout cela avec une probité profonde, calme, humble. Et utilisez pour vous exprimer les choses qui vous entourent, les images de vos rêves et les objets de votre mémoire.
Lettre à un jeune poète de Rilke, lu par Barbara en 1991, c'est le livre que tout le monde devrait lire pour être armé dans l'existence, selon vous, Cyril Dion.
Ben oui, c'est extraordinaire ce livre. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Rilke qui correspond avec un jeune poète qui lui a demandé son avis sur ses vers.
Un officier de l'armée austro-hongroise.
Exactement, et qui prend ce prétexte finalement pour lui donner une leçon de vie presque. C'est en gros, il lui dit arrêtez de demander la vie aux autres. Arrêtez de regarder vers l'extérieur, n'écoutez pas les critiques. Regardez vers l'intérieur de vous-même. Faites confiance à ce que vous ressentez. Essayez d'aller au plus profond, au plus juste, et de trouver la façon particulière dont vous allez pouvoir exprimer vos vers. Mais en réalité, c'est la même chose pour l'existence. C'est pour ça que je dis que tout le monde devrait lire ça, parce que trouver justement sa propre expression sans être prisonnier du regard des autres, sans être prisonnier des jugements et des modes et des histoires que la télé ou la pub nous raconte ou je ne sais quoi, c'est quand même le but de l'existence, enfin je crois, moi.
Puis surtout se satisfaire de sa propre approbation, enfin j'allais dire se satisfaire, mais c'est déjà tellement difficile de s'approuver soi. C'est vrai qu'on attend toujours l'approbation des autres.
Oui, mais je me dis qu'il faudrait vraiment arriver à s'aimer suffisamment pour ne pas souffrir que les autres cessent de vous aimer un jour. Ah. Et là, on serait quand même devenu très libre.
Et solide.
Et solide, oui.
Pas des êtres humains, en somme.
Oui, c'est ça.
Cyril Dion, vous aviez un passage que vous auriez aimé nous lire.
Oui, j'avais envie de lire plusieurs phrases, mais pour que vous entendiez que c'est tellement beau, quoi. Dans la première lettre, il lui dit « Jamais les choses ne sont saisissables et concevables autant qu'on le voudrait le plus souvent nous le faire croire. » La plupart des événements sont indicibles, se produisent au sein d'un espace où n'a jamais pénétré le moindre mot. Et plus inexprimables que tout sont les œuvres d'art, existences fort secrètes dont la vie comparée à la nôtre qui passe, dure. Et à un autre moment, votre regard est tourné vers l'extérieur, et c'est d'abord cela que vous ne devriez désormais plus faire. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider. Il n'existe qu'un seul moyen, plongez en vous-même. Recherchez la raison qui vous enjoint d'écrire. Donc ça, c'était après, c'est le passage que Barbara lisait. Je vous en lis un dernier qui est tellement beau. Si votre vie quotidienne vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous plutôt. Dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour en convoquer les richesses. Pour celui qui crée, il n'y a pas en effet de pauvreté, ni de lieu indigent, indifférent. Et quand bien même vous seriez dans une prison dont les murs ne laisseraient rien percevoir à vos sens des bruits du monde, n'auriez-vous pas alors toujours à votre disposition votre enfance, sa richesse royale et précieuse, ce trésor de souvenirs? Portez-là votre attention. Cherchez à éveiller les sensations englouties de ce lointain passé. Votre personnalité en sera confortée, votre solitude en sera élargie, pour devenir cette demeure à peine visible, loin de laquelle passera le vacarme des autres.
C'est magnifique.
Non mais...
Ça fait 188 ans que je le fréquente et je ne me suis jamais lassé.
Non mais c'est extraordinaire.
Extraordinaire. On mettra évidemment toutes les références sur le site. C'est magnifique à lire, à relire. Et justement, il parle d'œuvres. Cyril Dion, je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie et vous avez répondu une œuvre qui reste, qui apporte quelque chose au monde, au moins une. Une œuvre, ça peut être pris donc dans tous les sens, dans l'action, dans le travail. Mais vous, ce que vous préférez, c'est raconter des histoires.
Ouais. Non, j'espère que je produire une œuvre artistique quand même. En fait, j'aimerais arriver à faire ce que Rilke raconte. Je sais pas si j'y arriverai. Hein.
Ah oui, ce qu'il raconte.
Non, mais c'est-à-dire que j'aimerais arriver à l'endroit où qu'il décrit dans les lettres à un jeune poète. C'est-à-dire à cet endroit de sincérité, d'honnêteté, de trouver son propre médium, son propre canal pour exprimer quelque chose de profondément singulier qui puisse être un peu universel, toucher des gens. Mais c'est la quête d'une vie. Bon, après, qu'est-ce qu'il disait ça? Je crois que c'est Oscar Wilde qui disait qu'il faut avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. Bon, bah voilà, j'en ai pris un grand.
Ouais, il a aussi dit « Soyez vous-même car les autres sont déjà pris ».
Oui, je l'aime beaucoup.
C'est pas mal, ça va avec ce qu'on dit aussi.
Absolument.
Cyril Dion, je vous ai demandé ce que vous aviez raté. Et j'ai jamais eu autant de réponses qui quand même évoquent une certaine humilité. Vous répondez sans doute beaucoup trop de choses, mais parmi toutes ces choses, la fin de mon premier roman, donc j'imagine que c'est Imago, paru en 2017. Pourquoi ?
Parce que j'ai pas pris assez de temps pour le faire et que justement, je n'ai pas suffisamment laissé mes personnages m'échapper, suivre leur propre trajectoire. Je me souviens de Salman Rushdie qui disait, moi j'écris sur un personnage jusqu'à ce qu'il devienne suffisamment vivant pour pouvoir prendre ses propres décisions par lui-même et pour pouvoir me les murmurer à l'oreille. Et il y a vraiment quelque chose de ça dans la littérature. Et je pense que j'ai vraiment réussi à plein de moments du roman. Je pense par exemple que la première moitié est quand même relativement réussie. Et après, j'ai cherché à reprendre le contrôle. Et c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Et donc maintenant, vous allez être obligé de le lire pour voir si j'ai raison ou pas, si vous partagez mon point de vue. Mais vraiment, du coup, c'est bon. Après, on apprend, hein. pour faire mieux la fois d'après.
C'est vrai que c'est la meilleure publicité, en fait, de dire je crois vraiment que cette partie est ratée, et là tout le monde a envie de voir si c'est vrai. C'est et ça. De faire oui, c'est vraiment raté. ce que les gens aiment faire.
Mais absolument, je l'ai lu et je suis totalement d'accord avec.
Vous avez raté aussi, Cyril Jean, une partie de votre job de papa.
Ouais.
Par manque de temps ?
Bah, manque de temps, on décide combien de temps on consacre. J'ai toujours fait beaucoup de choses, et comme je disais, j'ai toujours aussi géré ma propre angoisse par la suractivité, par le fait de vouloir aussi réparer le monde pour me réparer moi-même. Enfin, j'ai été dans une sorte de brouillard tout le temps sur les motivations profondes qui me conduisaient à faire les choses. Là, je commence un petit peu à faire le tri et à ranger ma chambre, mais... Et du coup, j'ai pas été assez là. C'est-à-dire que je pense que mes enfants, même maintenant, ils ont 17 et 14, ils vous diraient que j'ai quand même pas beaucoup été là. Et j'ai pas beaucoup été là pour, j'ai aussi beaucoup laissé ma femme, gérer le quotidien et j'ai beaucoup de mal à gérer cette culpabilité maintenant. Maintenant que je vois que c'était vraiment, ça allait pas du tout de faire ça. J'ai les boules.
Est-ce que ça se transforme en action?
Oui, ça se transforme en action parce que depuis un an, j'ai changé un certain nombre de choses dans ma vie, que je suis plus là, que je suis plus investi, que je cherche justement à construire beaucoup plus d'espace pour que tout le monde dans la famille puisse ne pas subir moi et ma suractivité, et qu'au contraire, je puisse moi aussi les aider à trouver les espaces dans lesquels ils vont se réaliser.
Est-ce que vous pensez avoir trouvé votre place, Cyril Dion ? C'est aussi la quête de toute une vie. Parfois, on s'en approche, mais on sait qu'il y a des lacunes, il y a des espaces qu'on n'a pas encore atteints.
J'ai l'impression de m'en approcher de plus en plus, en tout cas, d'être de plus en plus à ma place. Quand j'ai arrêté d'être militant, par exemple, en 2012, j'ai fait un énorme burn-out. Et donc j'ai fait une thérapie déjà à l'époque pour essayer de comprendre pourquoi j'avais fait ce gros burn-out. C'est là que j'ai compris que j'étais dans un truc de militantisme un peu sacrificiel, de ce syndrome de chevalier blanc et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, être militant, ça me plaisait pas tant que ça. Et que ça me desséchait beaucoup, et que j'avais infiniment besoin de créer. Le moment où j'ai pris le plus conscience de ça, c'est... J'étais à un concert de Rufus Wainwright, je sais pas si vous connaissez.
Oui.
Ouais. Vous aimez bien ?
Oui.
Ouais, bon. Et donc Rufus Wainwright, sur scène, il a une espèce de truc, donc c'était un piano solo, et il est... Il le dit d'ailleurs, il dit living room area, donc il dit en fait c'est comme si on était dans son salon, et il joue, il chante, il rote, il fait une blague, il s'arrête, il est dans une espèce de liberté totale d'expression, et moi je le regardais avec des yeux ronds comme des billes, et j'avais l'impression de rentrer dans un espace de créativité infini, et je suis sorti de là, et j'ai fondu en larmes, et j'ai dit à ma femme, si je me remets pas à créer, je vais en crever. Je n'en peux plus. Et donc là, on va au café qui est à côté de la halle de la Villette, et on croise des copains avec qui on était en cours d'art dramatique, ce qui est exactement ce que je voulais pas à ce moment-là, parce que la question c'est toujours. Et alors, qu'est-ce que tu fais toi en ce moment? Ben, moi, j'ai arrêté. Ah bon, t'as arrêté? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ah ben, je suis en train de jouer une pièce de Brecht là, tout ça. Et ça a été un détonateur pour me remettre justement à la création. C'est là que j'ai fait mon premier recueil de poèmes, puis des films, puis des livres, etc. Et je vois bien que là, j'ai trouvé une place où j'arrive à allier un peu une forme d'engagement et une forme de création, mais qu'il y a encore quelque chose en moi qui a besoin de se détendre. C'était une longue réponse, hein, quand même.
Non, mais Cyril Jean, vous avez fait un spectacle aussi à la Maison de la Poésie en 2019 qui a tourné après Résistance Poétique avec le guitariste et compositeur Sébastien Hogg.
Oui, et qui va tourner à l'automne encore plus, et qui va être un livre et un disque. Je vais réaliser mon fantasme de rocker, être Jim Morrison, au moins pour un soir. Et on fait ça. C'est du rock et de la poésie. Et c'est absolument jouissif pour moi. J'espère que ça l'est aussi un peu pour les gens qui sont dans la salle.
Dans ce que vous avez raté aussi, on continue.
Ah, génial. Oui, c'est vrai qu'on n'était pas allé au bout de cette liste, cette fameuse liste.
Non. Il y a vos multiples tentatives pour faire une différence face au changement climatique et au conflit israélo-palestinien. Bon, ça, on l'a abordé. Et aussi, mes multiples tentatives pour vaincre l'angoisse. Ouais. Ça n'a jamais baissé, ça, parce que là, vraiment, ça ne m'encourage pas. Et j'imagine que plein d'auditeurs se disent, oh non. Vous n'avez rien trouvé qui fasse baisser l'angoisse.
Si, qui la fasse baisser, oui.
Alors quoi?
L'amour.
Ah oui, mais des choses accessibles.
C'est accessible.
Oui, mais je veux dire pour tous, enfin plus facilement.
Eh ben, le Xanax.
Ah oui, ben ça c'est vrai, c'est vrai.
Mais vraiment, l'amour ça marche. La confiance en soi, se sentir en sécurité, un peu. Mais je peux pas dire que j'ai vaincu, c'est-à-dire que j'ai appris à apprivoiser, j'ai appris aussi à reconnaître que c'était... Parce que moi, mon problème, c'est que donc je fais des attaques de panique, comme beaucoup de gens qui sont angoissés.
Oui, moi aussi, oui.
Donc, ça veut dire que je crois que je suis en train d'avoir un infarctus, que je suis en train d'avoir un AVC, tout ça.
Ah oui, moi, et... je crois que je vais vomir partout, tout le temps.
Voilà. Non, mais moi, je crois que je vais mourir, que je suis en train de mourir, quoi. Et donc, au début, j'allais aux urgences, en disant, je pense que je suis en train de faire une crise cardiaque, tout ça. Donc, ils me prenaient en charge tout de suite, ils me faisaient un électrocardiogramme, hein. Et puis, donc, j'y suis allé comme ça 2-3 fois. Et un jour, il y a un médecin, quoi, qui est venu me voir et qui m'a dit, bon, écoutez, moi, sur le plan médical, je crois que tout va bien. En revanche, j'ai un collègue en psychiatrie au 6e, si vous voulez, il peut descendre. Je sais pas très bien. Faisons ça, oui.
Et vous prenez du Xanax?
Ça m'arrive. Mais maintenant, je sais en fait que c'est une crise d'angoisse, donc j'arrive quand même à vivre le truc en me disant, en fait, je ne suis pas en train de mourir, c'est une crise d'angoisse, donc ça va passer. Après, je me demande ce que ça ferait si j'avais vraiment un infarctus. Est-ce que je croirais que c'est une crise d'angoisse? Bon, bref. Donc du coup, ça m'angoisse de penser ça.
Mais la mafia vient à notre secours.
This wasn't enough time, Michael. Wasn't enough time.
We'll get there, Pop. We'll get there.
Now listen, whoever comes to you with a Sparzini meeting, he's a traitor. Don't forget that.
1972, le parrain de Coppola qui vient de ressortir au cinéma, chef-d'œuvre absolu, parce que Cyril Dion, je vous ai demandé de recommander quelque chose de beau aux auditeurs. On entend la scène où Don Corleone, Marlon Brando, donne un conseil à son fils Michael, joué par Al Pacino, qui va devenir le nouveau parrain. Quel que soit celui qui vient vers toi dans cette réunion avec les Barzini, c'est un traître, ne l'oublie pas.
Quelle belle citation. Bah, c'est un chef-d'œuvre absolu, absolu. Enfin, là, on a été le revoir justement avec ma femme et mon fils, et ma fille d'ailleurs, au cinéma, et on a mis une semaine à s'en remettre. En fait, c'est un peu comme pour les Beatles, c'est-à-dire d'avoir autant de talents réunis. Marlon Brando, Al Pacino, qui est extraordinaire, cette scène où on comprend en fait qu'il est en train de devenir le parrain, c'est-à-dire qu'il est ce jeune homme qui est parti à l'armée, qui voulait se séparer de sa famille, qui était considéré comme le tendre, et on le voit basculer, et on voit ça dans son regard, l'espace d'une scène, juste à la façon dont il est assis, dont il se tient, la façon dont Marlon Brando, un moment qui était ce parrain, devient faible, et un moment est en larmes parce que son fils est mort, et en pyjama, dans une sorte de déchéance. Cette mise en scène sublime, cette musique incroyable, cette construction où, avec cette scène d'ouverture, il fait tout en même temps. Il déploie à la fois un monde, en même temps, il fait une scène d'ouverture. En même temps, il nous fait tout comprendre. Il nous pose tous les enjeux qui vont se déplier ensuite dans 3 films. Enfin, c'est du génie, quoi.
Lorca a dépassé toutes les limites de la gloire. Il avait du génie, il avait une puissance créative formidable. Pour moi, Federico Garcia Lorca était dans le commencement de sa carrière poétique seulement. C'est-à-dire, il se cherchait à soi-même encore, mais il se cherchait en découvrant chaque jour, et il était un véritable grand écrivain, un grand poète.
Interview de Pablo Neruda en 1970 sur France Culture au micro de Gilbert Maurice Dupré. Cyril Dion, vous avez choisi le poème que Neruda a écrit à la mort de Garcia Lorca, l'un de vos poèmes préférés. Mmh. Vous avez appelé votre fils Pablo à cause de Neruda. Neruda qui a connu Lorca lorsqu'il était lui-même consul du Chili en Espagne au milieu des années 30. Et le poème, c'est Ode à Federico Garcia Lorca. On peut le trouver dans le recueil Résidence sur la Terre, paru chez Gallimard. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce poème et peut-être nous en lire un extrait?
C'est un des poèmes les plus sublimes et les plus déchirants que j'ai jamais lu. Pour moi, Neruda, il a une langue qui est presque magique. C'est-à-dire que c'est ça que la poésie peut faire, c'est assembler des mots comme jamais personne ne les a assemblés, avec des images que jamais personne n'a employées, et nous permettre d'accéder à une compréhension, à une intelligence du monde qui va au-delà des concepts, qui est où tout se mélange, où à la fois l'intelligence, l'intellect, l'émotion, l'esthétique, la musique, tout fait ça en même temps. C'est un peu le cinéma de la littérature, je trouve, la poésie. On parle à tous les étages en même temps. Et si vous voulez, je vous lis un petit bout, oui. Juste pour le plaisir.
Oui.
Si je pouvais pleurer de peur dans une maison abandonnée, si je pouvais m'arracher les yeux et les manger, Je le ferai pour ta voix d'oranger endeuillée et pour ta poésie qui jaillit en criant. Parce que pour toi, l'on peint en bleu les hôpitaux et pousse les écoles, les quartiers maritimes et les anges blessés se peuplent de plumes et les poissons nuptiaux se couvrèrent d'écailles et les hérissons s'envolent vers le ciel. Pour toi, les ateliers, avec leurs membranes noires, se remplissent de cuillères de sang et avalent des ceintures déchirées et se tuent de baisers et s'habillent en blanc. Lorsque tu voles, vêtu de pêche, lorsque tu ris avec un rire de riz furieux, lorsque tu secoues pour chanter les artères et les dents, la gorge et les doigts, je mourrai pour ta douceur. Je mourrai pour les lacs rouges où tu vis au milieu de l'automne, avec un coursier déchu et un dieu ensanglanté.
Ode à Federico Garcia Lorca par Pablo Neruda. Merci Cyril Jean, on arrive à l'engagement de fin d'émission. Et le vôtre, c'est de dormir plus.
Oui.
Sinon, vous ne finirez pas bien vieux, c'est ce que vous dites.
Ouais, en fait, enfin, j'aime pas trop l'idée de dormir, parce que j'ai tellement envie de faire plein de trucs que je me dis que c'est quand même du temps perdu, cette histoire de dormir. Et à la fois, à force de dormir 3 heures, 4 heures, 5 heures, comme j'ai, et la nature est très mal faite, besoin de 8 heures, et ben, ça marche pas. Et je vais finir par m'effondrer. Donc je promets que je vais essayer de dormir vraiment plus.
D'accord. Bon, alors on suivra avec suspense et émotion.
C'est ça. Mais il y a déjà deux trucs à vérifier, quoi. Est-ce que je vais dormir? Est-ce que la fin de mon roman est vraiment ratée, quoi?
Ouais. Cyril Jean, merci beaucoup d'être venu dans l'émission.
Mais c'était un grand plaisir. J'avais très envie de venir.
Votre film Animal est toujours en salle apparemment, mais pas totalement. Et de toute façon, il est en VOD depuis peu. Votre recueil de poésie À l'orée du danger est paru le mois dernier chez Actes Sud. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous êtes aussi ondulants qu'un plan de coupe de glace italienne. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.